Donc bonjour Wajdi Mouawad.
Bonjour.
On va évoquer le spectacle Incendie qui se joue ici dans le cadre de du FTA et qui a déjà été donné en France. Et donc ce spectacle qu'on pourra retrouver l'année prochaine à Limoges en septembre, à Malakoff au mois de janvier, à Angoulême, à Saint-Nazaire et donc une tournée ensuite en 2004-2005. Donc je viens de voir ce spectacle que moi j'ai perçu comme une quête identitaire qui est empruntée à la fois au conte, au texte de formation, avec pour berceau un témoignage sur la guerre, sur les réalités de la guerre et plutôt ses mécanismes d'escalade un peu dans l'horreur. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il était surtout question d'amour et de pardon, et surtout du choix de l'amour sur la haine, d'une décision d'amour. Donc, on mettra, nous, en ligne aussi le dossier qui permettra de préciser un petit peu quelques intentions du spectacle. On peut juste évoquer que c'est une sorte de voyage initiatique, une recherche d'identité de deux jumeaux qui vont, à la suite de la mort de leur mère, être amenés à faire une enquête sur leurs origines. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien parler de l'écriture faite avec les acteurs, parce que la pièce Littoral avait déjà été écrite un peu sur mesure pour des acteurs. Là, Incendie, on a vraiment la sensation qu'elle est écrite au contact du plateau, et que là, il y a eu un processus particulier qui a mêlé les acteurs vraiment très tôt au travail. Donc déjà, tout d'abord, j'aimerais bien évoquer ce processus d'écriture particulier.
Le travail a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est-à-dire il y a 4 ans, où l'histoire est apparue. C'est très important de dire ça, parce que ce qui m'amène à plonger dans le travail, à décider de choisir cette histoire-là plutôt que celle-ci, qu'est-ce qui me pousse à sentir que là, il y a quelque chose que je dois suivre, c'est lorsque j'ai le sentiment profond que je suis habité par ce que je veux raconter et totalement inconscient de ce que je veux dire. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus intéressé par ce que je veux raconter que par ce que je veux dire. Tout simplement parce que j'ai confiance que si je raconte ce que je veux réellement raconter, ce que je veux dire et que j'ignore, puisque je le raconte, puisque je cherche à le raconter, sera dit. Alors ça, c'est très important de comprendre qu'au point de départ, il y a la rencontre avec une histoire. Une rencontre qui se fait selon des principes très étranges et très mystérieux, qui sont très difficiles à décrire. Parfois, c'est vraiment... vous croisez quelqu'un dans la rue et étrangement, vous... il y a une histoire qui apparaît là devant vous et qui vous dit, voilà, je suis une femme, je viens de me taire et je n'ai pas parlé depuis 5 ans, je vais mourir et je laisserai à des jumeaux qui sont mes enfants, un garçon et une fille, un testament dans lequel il sera demandé à l'une, la jumelle, de retrouver le père, leur père, qu'il croyait mort, et à l'autre, au frère, de retrouver leur frère dont ils ignoraient l'existence. Voici l'histoire qui apparaît. Alors là, il y a un processus très important qui se passe dans le temps, qui est presque de l'ordre de la rencontre, presque une rencontre d'homme d'affaires, là, entre l'histoire et moi. On se regarde un tout petit peu comme ça, on se dit « Bon, t'es qui, toi? Est-ce que t'es vraiment intéressant ?» L'histoire qui me dit « Écoute, on m'a déjà dit que tu as déjà raconté des histoires du style qui me ressemblent, mais je suis pas sûr. » Bref, il y a une méfiance au début. Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est un vrai auteur? Et puis, le temps faisant, on s'habitue l'un à l'autre. Je réalise comme auteur que cette histoire ne s'en va pas. Et cette histoire s'entête à rester là. Et étrangement, à un moment donné, le temps passe et je me surprends à réaliser que son absence, parce que je n'y ai pas pensé pendant 2-3 semaines, 2 mois peut-être, son absence me manque. Alors je vais la visiter. Je réalise que mon absence lui a manqué. Et là, on se rend compte que oui, on a envie de faire quelque chose ensemble. L'histoire et moi, on veut faire quelque chose ensemble. Alors à partir de là, il faut lui donner corps, il faut que je l'habille, il faut que je l'habite, c'est carrément de faire l'amour avec l'histoire. Pour ça, j'ai besoin de corps. Je peux pas passer par mon propre corps. Pour moi, le corps des comédiens, les comédiens, c'est à travers eux que je fais l'amour avec l'histoire. C'est le lieu, c'est la rencontre de c'est là où si je veux être tribal, je dirais la copulation se fait à travers le corps des acteurs. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je ne peux pas, moi, écrire la pièce de mon côté, ensuite appeler des acteurs qui coïncideraient plus ou moins avec le personnage. Je leur donne chacun une copie du texte, ils vont l'apprendre. Ensuite on revient, on fait un peu de travail de table, ensuite on se lève, on fait de la mise en place. Ça ne peut pas se passer comme ça, parce que là il y aurait tromperie. Là je tromperais l'histoire totalement, là je lui ferais un coup vache. Alors comment ça doit se passer? Ça doit se passer par, premièrement, comme je vous dis, je connais l'histoire, que je peux raconter en 2 minutes, mais je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas quelles sont ses ramifications. Et pour trouver les ramifications, dans mon cas, ce qui m'excite énormément, c'est les événements aléatoires. Alors je les provoque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au début d'incendie, j'avais l'histoire, mais bon, j'avais la mère, j'avais les jumeaux, j'avais un autre personnage dont je ne veux pas parler ici parce que quand même bon, il y a beaucoup de surprises dans cette affaire, mais c'est tout, j'avais 4 personnages, donc on peut dire j'avais 4 acteurs, mais je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais envie de travailler avec certaines personnes, parce que j'avais envie de rencontrer certains comédiens sur le plateau, j'ai appelé 9 comédiens en me disant ce sera 9 comédiens. Même initialement j'en avais appelé 10, mais finalement il y en a un qui pour une question d'horaire, ne pouvait pas faire le spectacle. Je n'ai pas cherché à le remplacer. Donc j'avais 9 comédiens, sans savoir quel rôle ils allaient jouer, mais je savais que puisque j'avais 9 comédiens, il y avait des personnages qui allaient apparaître. Donc, les comédiens, quand je les ai approchés, je ne leur ai pas parlé, je leur ai pas parlé de leur personnage, je leur ai parlé de l'histoire, et de cette rencontre que j'ai eue avec l'histoire. C'est comme si je leur disais, je crois que vous seriez un lit formidable pour eux, moi et l'histoire, afin que nous puissions coucher ensemble, elle et moi. Et j'ai besoin d'un lit, et le lit c'est vous. Est-ce que vous accepteriez? Et ils me disent oui, parce qu'un comédien c'est ça, c'est un lit. C'est un lit où se font les rencontres, où là il y a un acte d'amour qui se fait. Alors, un acte de confiance tout de suite. Les comédiens, on pose un geste de confiance en disant « Je n'ai pas de personnage, je ne lis pas de texte, je n'ai qu'une histoire, et c'est tout. » Et je dis oui. Alors, il y avait aussi des détails très techniques. Je leur ai dit « On répète 1 an, avec des moments d'arrêt. Vous êtes payé pendant les répétitions, ce qui est important au Québec, parce qu'au Québec, les répétitions ne sont pas payées. » Donc, je leur ai dit « Vous êtes payé pendant les répétitions. Je demande une présence continue. »
Tout le monde.
Tout le monde est là, tout le temps. Voilà. Est-ce que vous avez envie de partir dans cette aventure? J'ai quelque chose à raconter. Vous êtes des comédiens. On ne vous propose pas souvent des créations où il y a, où vous sentez qu'il y a une substance. Je crois qu'il y en a une là. Voilà. Alors, ils me disent oui. Et c'est un oui grand comme la terre. Et moi, de mon côté, j'ai choisi des comédiens. Mon critère, au-delà du talent, c'était la gentillesse. J'avais envie de travailler avec des gens gentils. Mais dans le beau sens du terme, du mot gentil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontation, qu'il n'y a pas... Il y a ça. Mais il y a une gentillesse. Alors on s'est retrouvé dans ce contexte-là, et là, on a commencé à travailler. Je vous explique tout ça pour vous dire qu'au fond, je n'ai pas écrit le texte avec les comédiens. Mais ils étaient ces fenêtres que j'ai ouvert moi-même volontairement pour créer un courant d'air aléatoire qui allait transpercer la pièce, l'histoire. J'avais 9 comédiens, je devais écrire des personnages. Alors on a commencé par quoi? On a commencé par parler. Premièrement, pourquoi est-ce que, une question qu'il faut poser, c'est pour quelle raison, pourquoi nous n'arrivons pas à lire la situation dans laquelle nous sommes. Quelle est notre situation? Je parle d'une situation politique, mais métaphysique aussi, notre condition. Pourquoi nous n'arrivons pas à lire la condition? Pourquoi il n'y a personne qui est en mesure de nous expliquer voici votre situation. Une situation, c'est quoi ? Une situation, c'est par définition quelque chose d'ouvert, dont on ne connaît pas la fin. Un bateau qui coule, ça c'est la situation. Quand le bateau a fini de couler, il n'y a plus de situation. Bon. Donc, ce qui rend difficile la lecture de la situation, c'est le fait qu'elle soit ouverte et qu'il nous est très difficile de concilier tous les paramètres qui nous entourent pour deviner cette fin qui nous attend. Et donc, par là, lire la situation. Pouvoir dire, ah, nous étions dans un bateau qui coulait. Alors, nous avons commencé par parler de ça. Alors, on s'est rendu compte que pour parler de ça, il nous fallait aussi nommer les choses. Qu'est-ce qui nous fait peur ? D'où je viens ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et petit à petit, en parlant de ça, je suis passé par une période où j'ai pris trois périodes où je leur ai raconté la guerre du Liban. Mais en commençant par Noé, en passant par les textes sacrés, en passant par la Révolution française, l'Empire romain, la Deuxième Guerre, la Première Guerre, tout ça, c'est une implication capitale sur le Moyen-Orient. Donc pour essayer de voir... Et donc ça a été important parce qu'on a réalisé que pour être capable de nommer le début d'une chose, eh bien il fallait... On ne pouvait pas trouver le début d'une histoire. On devait décider du début de l'histoire, puisqu'on peut toujours remonter un peu plus loin. Donc, là, il y a une question très importante qui est arrivée, c'est comment on choisit ? Personnellement, mais aussi collectivement, votre histoire à vous. Vous pouvez dire, je commence quand je suis né. Oui, mais vous commencez aussi quand vos parents sont nés, mais quand ils se sont mariés ou quand ils se sont rencontrés, mais avant, pour y remonter à vos grands, enfin, etc. Alors, comment on fait pour décider ? Voilà, moi, c'est mon histoire commence là. Ça, c'est personnellement, mais collectivement, c'est la même chose. Alors la question, et c'est là où tout à coup, on a commencé à comprendre un peu dans quelle histoire nous étions, cette histoire de cette femme qui meurt alors qu'elle s'est tue pendant 5 ans. On s'est dit, ah, très bien, les jumeaux se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de choisir. Ils sont obligés de répondre à cette question, où commence mon histoire ? Tout simplement parce que c'est pas nécessaire qu'on y réponde. Il y a des gens qui peuvent passer leur vie, et ce n'est pas un mal, ils peuvent passer la vie sans avoir à se poser la question, parce que la vie ne les a pas mis dans une situation où ils doivent se poser la question. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque les événements, l'existence vous met dans une situation où vous êtes obligé de vous poser cette question ? Et là, on tenait quelque chose. Et là, c'est intéressant parce que tout à coup, les personnages ne devenaient plus des personnages, ils devenaient quelqu'un que l'on connaît, dont on parle là en répétition. Alors quand on parlait de Jeanne et de Simon qui étaient les jumeaux, on parlait d'eux comme on parle de quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est, qu'on connaît. On parlait de lui, oui, Jeanne ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Et là est arrivée la mère. Pourquoi elle s'est tue ? Pour quelle raison ? Moi je leur apportais tout ce que l'histoire me disait. Et eux disaient, oui, mais ça ne fonctionne pas. Je leur dis, si, ça peut fonctionner si telle chose et telle chose. Et regardez, pendant la guerre du Liban, il s'est passé telle chose et telle chose. Bon, des documents, mais aussi de l'imagination qui travaille. Et tout à coup, et ça a duré 2 mois.
À la table.
Assis autour de la table à parler. Et donc, à créer un espace virtuel issu de la parole, mais une parole fabuleuse. Du terme, j'utilise le mot fabuleux non pas comme un adjectif, mais comme le nom, c'est-à-dire de la fable. Ouais. Une parole fabuleuse, qui avait accès à la fable, et non pas une parole stérile, qui est cérébrale ou analytique, ou psychique même. Elle n'était ni psychique ni analytique, elle était fabuleuse. On pourrait imaginer que, par exemple, il y a un personnage qui est l'infirmier, celui qui gardait la mère pendant son silence. Pendant longtemps, à un moment donné, j'ai eu l'idée, je dis, tiens, lui, il est atteint d'une maladie qui est la prosopagnosie. La prosopagnosie, c'est une maladie qui vous empêche de reconnaître, de différencier les visages les uns des autres. Et on était très amoureux de cette idée. Elle est restée longtemps. Et au dernier moment, on l'a enlevée parce que ça nous envoyait dans une direction qu'on ne parvenait pas à développer. Je l'ai ôtée, mais pendant longtemps, c'est resté. Et le comédien qui joue Antoine, l'infirmier, il joue quelqu'un atteint de prosopagnosie. Il n'y a personne dans la salle qui le sait, il n'y a personne qui est au courant de ça. Mais ça, c'est resté et ça a donné... Le sentiment de l'existence à un personnage qu'on voit très peu, mais qui amène le comédien à jouer quelque chose de très précis. De très, très, très précis. Alors, toutes ces questions-là ont fait en sorte que pendant des mois, on a parlé des personnages et de l'histoire. Et quand j'ai commencé à moi voir très clairement l'histoire, là, je me suis mis à écrire. Alors, j'ai écrit quoi ? J'ai écrit la première scène, le notaire qui parle. Là, l'écriture rentre en ligne de compte et quelque chose qui n'est plus relié aux acteurs, qui est relié uniquement dans la relation que j'entretiens avec l'écriture. Les mots, l'arabe en français. Moi, j'écris pas en français, j'écris... enfin, si, ce sont des mots français que j'écris, mais c'est de l'arabe. C'est un rythme répétitif, c'est une langue qui se répète. Alors, j'ai écrit la première scène, je suis arrivé le lendemain, on a placé la première scène. Ce qui était fabuleux, c'est que on a tellement parlé de personnages, et puis à un moment donné, dans ce processus, je leur ai distribué leur rôle. Je leur ai dit, tu feras la mère jeune, tu feras la mère âgée, tu feras la mère adulte, tu feras Jeanne, tu feras Simon, tu feras... etc. Eh bien, nous avions tellement parlé des personnages que lorsque le texte est arrivé, il n'y avait aucune question presque à se poser. Quoi. Il n'y avait qu'à dire et à faire et à placer. Une évidence. Et tout au long de la création, j'étais obsédé par le spectacle, je n'étais pas obsédé par le texte. Ce qui m'importait, c'était le spectacle. Donc, j'ai développé, mon point de vue était carrément impitoyable par rapport au texte. Comme metteur en scène, j'étais impitoyable par rapport à l'auteur que j'étais. Deux jours avant la première, on a coupé une heure, c'est là où la prosopagnosie est partie, enfin beaucoup de choses sont parties. J'ai coupé une heure du spectacle. Ouais, bon, il fallait, sans aucun état d'âme, quoi. Ce qui compte, c'est le spectacle. Et là, les comédiens ont eu une part très très importante parce qu'ils étaient. Ils ont eu une part très très importante dans la confiance et dans l'état d'esprit dans lequel nous étions tous à se dire que le plus important, c'était le spectacle. C'était cette chose que nous faisions ensemble. Parce que couper une heure, c'est-à-dire couper du texte. Ça veut dire couper des personnages. Donc couper de l'ego, toucher l'ego. Voilà, vous voyez. Et ça a été vraiment, vraiment capital pour le spectacle, quoi.
Justement, par rapport à ce processus-là, il me semble que dans le spectacle, bon, déjà, le rapport à l'investissement des personnages, enfin des acteurs dans leurs personnages, il est très manifeste, mais surtout, je sentais très nettement cette ouverture un peu de la pièce et cette annonce d'un secret à dévoiler, cette annonce de cette ouverture, ce lancement comme ça avait été chronologiquement, maintenant il faut qu'on trouve l'histoire. Et j'avais aussi l'impression que le texte empruntait beaucoup. Par moments, au polar, au suspense, au whodunit, justement, on va chercher, là on ne cherche pas qui a fait le crime, on cherche qui est le père, qui est la mère, et que du coup le temps se resserre de la même manière que dans un suspense, et qu'il y a une espèce de machine qui se met en marche, et que j'ai l'impression que qu'il y avait aussi, mais peut-être ça vient même du processus d'écriture qui a été à la recherche de son histoire à raconter, justement, qu'il y avait comme ça quelque chose du polar un peu à...
Oui, absolument. C'est que il y a c'est très juste ce que vous dites. Il est très très juste. C'est que je crois que s'il y avait eu un regard sur pas sur la création mais sur l'écriture du texte, mettons que toute l'écriture du texte avait été filmée. Eh bien, ce réalisateur éventuel aurait pu faire un montage de telle manière que ça aurait donné un film policier. Parce que l'écriture elle-même suivait exactement, comme vous dites, ce rythme-là. C'était pas voulu. Ce qui était voulu pour moi, c'est que ça a donné ce suspense-là, ça l'a donné parce que c'est très difficile pour moi de parler de ça parce que je veux pas révéler certaines choses, justement, mais. Voilà. Parce qu'il y avait des choses que je ne voulais pas révéler, je devais construire la pièce de telle manière et présenter les acteurs et les personnages de telle façon qu'on ne puisse pas comprendre ce qui va arriver. Et ça, c'est pour moi très important. C'est ça, une histoire. Et là, je vais parler un peu du théâtre québécois. C'est que le théâtre québécois... pendant longtemps était un théâtre de confession, c'est-à-dire un théâtre où l'événement est arrivé. Il y a un personnage qui est sur scène, qui a posé le geste de cet événement-là, qui a vécu cet événement et qui va à la fin nous raconter ce qui s'est passé. une histoire telle que je l'entends, un conte, ben, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Et les personnages non plus ne le savent pas. Il n'y a personne qui le sait. Là, non, en l'occurrence, la personne qui sait ce qui s'est passé est morte. Elle n'est pas là pour se confesser. Elle ne peut pas témoigner.
Elle tire les ficelles, elle,
voilà. Voilà. Et ça, c'est de ça que c'est ça qui fait émerger le sentiment policier, de l'enquête policière. Je crois, les comédiens, quand on s'en parlait, je leur disais finalement, c'est davantage une odyssée qu'une quête. Le terme, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de l'odyssée, c'est cette espèce de retour chez soi. Une odyssée, c'est un retour finalement. C'est pas un voyage vers l'avant, c'est une tentative de rentrer chez soi. Et c'est ce qu'ils vont essayer, c'est ce qu'ils vont être obligés de faire. Malgré eux, les jumeaux, ils n'ont pas envie de faire ça. Ils sont obligés de le faire.
Alors, il y avait aussi dans cette écriture-là, justement, et puis il y a vraiment, et puis moi j'ai apprécié aussi ce retour à l'histoire, ou ce travail sur l'histoire, pas la grande histoire, mais l'histoire, la fable. En même temps, j'avais la sensation que dans ce spectacle-là, l'écriture était vraiment indissociée ou indissociable de la mise en scène. Que l'auteur, moi je dis Mouawad, qui écrivait ce texte, n'avait pas travaillé en amont du metteur en scène, moi je dis Mouawad, qui allait mettre en scène le spectacle. Si on pouvait revenir.
Il y a eu une chose que j'ai écrite sans savoir comment j'allais la monter. C'est l'accouchement. Bon Dieu, ça m'a fait paniquer parce que... C'est-à-dire que quand j'écris, dans un contexte comme celui-là, par exemple, il y a d'autres pièces que j'ai écrites, comme Willy Protagoras enfermé dans les toilettes ou Les mains d'Edwige au moment de la naissance, qui ont été écrites sans savoir si la pièce allait être montée ou pas, qui ont été écrites comme un auteur écrit chez lui. Et là, il n'y a pas de question de spectacle qui se pose. J'écrivais les choses comme elles venaient, puis... Là, je savais que j'allais monter le spectacle. Je savais que j'étais le metteur en scène du spectacle. Donc, pour moi, c'était évident que, à un moment donné, comme metteur en scène, j'ai fini par comprendre quelle allait être l'esthétique du spectacle. C'est-à-dire cette ronde, cet espace où le temps est fracturé. Quand j'ai compris que, comme metteur en scène, j'avais envie de mettre les différents temps en même temps sur scène. C'est-à-dire que la jumelle rencontre sa mère quand sa mère était encore plus jeune qu'elle. Parce que la comédienne qui joue la mère jeune, ben, elle est là, puis la comédienne qui joue la jumelle, elle est aussi là, puis ils se rencontrent. De faire fracturer le temps. Tout ça est arrivé par le metteur en scène, et ça m'a amené à écrire des scènes où tout à coup les personnages se rencontraient, parce que le metteur en scène les avait trouvées. Et inversement, il y avait des choses que le metteur en scène savait, avait trouvées. Par exemple, le jet d'eau, la scène du jet d'eau, ça c'était, j'avais eu l'idée, tout bêtement, en assistant à ça, j'étais chez un copain à Montréal, il arrosait sa pelouse, et puis j'ai entendu, il y avait des travaux à côté, et puis les travaux, j'ai associé dans ma tête le mouvement du jet d'eau aux travaux qui se passaient à côté de moi, et puis j'ai vu, la vie m'a offert un moment de théâtre qui m'a marqué, et je me suis dit, il faut que je monte ça sur une scène. Et donc j'ai pas écrit une scène pour ça, mais là je savais que ce moment-là allait exister comme ça. Mais la scène de l'accouchement, ça c'est une scène que l'auteur a écrite et qui a dit au metteur en scène, tu te débrouilles. J'ai vraiment débrouille-toi, quoi. Oui. Mais c'est sûr que la plupart du temps, c'était indissociable.
Alors justement, je parlais de la mise en scène parce que ce qu'on sent vraiment, moi ce qui m'a aussi touché dans le spectacle, c'est cette sobriété du dispositif. C'est aussi ce travail vraiment d'un théâtre de l'objet, en fin de compte, parce que ce théâtre, ce dispositif, il y a vraiment quelques chaises, des escabeaux, et puis un grand mur de verre, enfin des glaces un peu, enfin des fenêtres un peu sales, et c'est tout. Et avec ça, on va voyager, ce qu'on avait déjà fait dans Littoral avec les chaises, mais là, j'ai eu l'impression que il y avait une plus grande polysémie encore des éléments qui pouvaient être tout, une pierre tombale, qui pouvait enfin, servir à toutes sortes de vocations. Et il m'a semblé que là, il y avait comme une espèce de, je sais pas, de volonté ou de rencontre avec ce potentiel-là, suggestif de l'objet, qui avait pour nous, ça devenait Parce que c'est des, comme c'est très sobre et ça a un potentiel imaginatif très fort, nous, ça nous renvoie effectivement à de l'imaginaire partagé, puisqu'on voit tout à vue, aussi bien l'utilisation des chaises que quelques décisions comme les enfants en serviette ou quoi. Enfin, là, j'ai l'impression qu'il y avait comme ça quelque chose, par rapport à moi, ce que je connaissais de votre travail, encore plus manifeste sur ce rapport-là aux objets.
Oui. Là, vous touchez quelque chose chez moi très, très angoissant. À travers cette question, une de mes grandes angoisses comme homme de théâtre, c'est de réaliser que je suis absolument incapable d'intégrer ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Je suis absolument incapable de me sortir de l'histoire. Or, je vis dans un milieu, le milieu théâtral. Non, pas le milieu théâtral, mais oui, si, le milieu théâtral. Le milieu qui fait le théâtre et qui décide ce qu'est le théâtre. C'est-à-dire les grandes institutions, les grands médias, les grands mouvements, les grands festivals ne sont plus du tout intéressés par les histoires. Mmh. Et ça, c'est très violent. Moi, je le ressens très violemment, parce que je suis quelqu'un qui est absolument incapable de faire autre chose que de raconter une histoire. Alors, j'ai le sentiment de ne pas du tout être à ma place, de ne pas être de mon temps, d'être vachement en retard, de lutter pour ne pas tomber dans le complexe, et encore plus fortement, de lutter pour ne pas me mettre à faire ça, sous prétexte que c'est ça qui est le théâtre aujourd'hui, et que si vous n'avez pas un écran qui pivote et... 22 images qui sont projetées à la minute et un mec qui se masturbe devant, ben c'est pas tout à fait du théâtre. Alors ça, c'était d'abord une angoisse contre laquelle je dois résister. Parce que le plus important, c'est d'aller vers ce que l'on voit. Peu importe si ce que l'on voit est un mirage, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Tant qu'on ne voit pas que c'est un mirage,
on avance.
On n'a pas le choix. Et si on se met à aller vers quelque chose que l'on ne voit pas sous prétexte que tout un mouvement y va, on est foutu. On est foutu. Alors, ça amène ça. C'est-à-dire, et je vous dis ça parce que j'ai essayé, j'ai dit, ah, j'aimerais ça projeter des images sur le panneau de vitre, ça serait beau. On a essayé, hein, moi j'ai un copain qui a pris un très très bon photographe, qui a pris plein de photos, je lui ai dit, j'aimerais que toutes les photos soient en relation avec la théorie des graphes, c'est-à-dire, par exemple, un poteau de téléphone avec les fils. Alors la scène où il parle au téléphone, on projette ça. Donc quelque chose de presque abstrait, mais qui est très réaliste, mais abstrait. Alors il a fait le travail, il a pris des photos et tout, on a fait venir un projecteur épouvantable, on l'a parti, on l'a envoyé. Puis ça ne marchait pas, c'était nul, c'était mauvais, c'était... Alors bon, on l'a enlevé. Puis ça restait quoi? Avec cette chaise qu'on transforme en pierre tombale, pour accoucher, elle est assise sur un escabeau, il y a quelqu'un qui passe en dessous de l'escabeau. En tenant une serviette rouge. C'est pas que c'est pas difficile à trouver, c'est très difficile à trouver, c'est très difficile à faire. C'est difficile à faire, c'est difficile à construire et à donner le sentiment que tout ça est d'une grande simplicité. Je vous raconte pas ce qui se passe derrière le mur, quoi. C'est l'enfer, quoi, les accessoires. Puis les comédiens ont un travail technique très, 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 très minutieux et très calculé à faire pour y arriver. Et finalement, c'est plus fort que moi, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je faisais avec Littoral, mais. Parce que Littoral, c'était il y a 5 ans, et qu'entre Littoral et aujourd'hui, j'ai fait quelques mises en scène qui allaient dans ce sens-là. J'ai développé, j'ai poétisé davantage. Je pense à cette phrase de Bresson que j'aime beaucoup, le cinématographe qui dit, le réalisateur qui dit, il faut donner l'impression que les chaises ont envie d'être là. J'aime beaucoup cette phrase. Et c'est ce que je voulais faire, je voulais donner... Je voulais que les spectateurs, si à un moment donné, ils décidaient de regarder la chaise qui est dans le coin, qu'ils aient l'impression que c'est quelqu'un. Cette chaise-là, c'est quelqu'un qui contente d'être là. D'ailleurs, on a nommé les chaises. Adélaïde, José, Berthe, Marilyn, chaque chaise avait son nom. Et elle a toujours son nom. Et les comédiens appellent les chaises par leur nom. Mais, comme je vous dis, la question que vous soulevez et ce dont je vous parle là, touche une... Et que je ressens tous les jours, je ressens ça même quand les gens viennent, hein, tu sais, c'est-à-dire que les gens voient le spectacle, ils sont... En fait, je me sens un peu comme un peintre paysagiste. Voilà, je me sens comme un peintre qui peint des paysages. Et les spectateurs qui voient ces tableaux-là regardent ça avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tension, le regardent véritablement, le reconnaissent. Mais il y a quelque chose en dessous de ça qui dit « Oui, mais ce n'est pas un tableau tout blanc avec juste une ligne verte qui passe et qui nous donne le sentiment que là, on est devant
l'art contemporain. »
Et ça, pour moi, c'est un truc avec lequel je me débat continuellement.
En même temps, nous, on ne recherche pas non plus exclusivement que l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on voit bien, effectivement, en voyant du Wajdi Mouawad, on sait qu'on va voir une histoire. On sait que c'est à peu près l'étiquette. En même temps, quand on voit le spectacle, bon, y a une histoire qui, en plus, nous touche, nous embarque. C'est pour ça que je relevais aussi ces phénomènes un peu de suspense, que c'est aussi des techniques aussi pour nous attacher à ça. Mais surtout, et après on va y revenir, justement, j'avais d'autres thèmes là-dessus, mais il y a quand même certaines... il y a une poétique des éléments en place, mais aussi une nécessité, il y a aussi une qualité de présence des interprètes qui sont des personnages, mais qui sont aussi au service de cet univers. Donc ils doivent manipuler des choses, ils doivent être là, oui, dans une présence. Et il me semble que tout ça contribue à nous donner, une adhésion et qui fait qu'on passe largement au-dessus de... Oui, bon, ben, c'est juste un raconteur d'histoire, has-been, quoi, ou je sais pas, enfin, quelque chose comme
ça. Oui, tout à fait.
Mais...
Oui.
Notamment, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Bon, déjà, il y avait un peu un côté amusement, c'est-à-dire, la pièce s'appelle Incendie au pluriel, et on n'arrête pas de voir de l'eau sur scène. Donc, évidemment, bon, je me suis dit, bon. Mais en même temps, je me suis dit, mais j'ai l'impression de redécouvrir la qualité de certains gestes et de certaines présences, comme l'eau qu'on jette sur le sol, puis l'eau qu'on jette sur le sol au théâtre, c'est pas si fréquent que ça. Et là, d'un coup, on voyait comme ça, sans cesse, on nous jette de l'eau, et après, il y a effectivement cet arroseur-là qui prend une force énorme par son mécanisme automatique même, qui devient quelque chose d'implacable, là, alors qu'on nous raconte un massacre. Donc, il y a comme ça une présence que moi, j'ai ressentie très fortement autour de l'eau. Pas s'il y a des...
Oui. Ben, pour moi, c'est marrant. Si je me suis dit, oui, ça s'appelle incendie. C'est au pluriel parce que il est question de quatre incendies. Il y a l'incendie de Nawal, l'incendie quand on lui enlève son enfant. Il y a ensuite seconde incendie qui est justement au moment de l'arrosoir où, pour moi, c'est l'enfance qui brûle. Il y a un troisième incendie qui est le moment où Nawal, plus âgé, va poser un geste qui est presque un geste terroriste. Enfin, elle va poser un geste de tuer un homme, qui est le grand geste tragique par excellence, c'est quand on tue. Et le dernier incendie, qui est l'incendie du dernier personnage. Donc il y avait plusieurs incendies, je me suis dit, je ne peux pas mettre le feu. Il faut juste que j'éteigne le feu. Il faut éteindre le feu. Il faut que je... Si en plus je mettais du feu, je ferais un pléonasme terrible. J'ai compris très rapidement que je devais régulièrement éteindre le feu pour que l'incendie à nouveau reprenne, et qu'à nouveau elle reprenne, et qu'à nouveau elle reprenne, et qu'à nouveau elle reprenne. Et donc pour moi c'était évident que ça devait être de l'eau, quoi. Ça ne pouvait pas être du feu, il fallait aller dans le... C'est pour ça que ça s'appelle incendie, c'est parce qu'il pleut, justement.
Oui, puis il pleut. Oui. Ouais. Et enfin, il y a comme ça beaucoup d'éléments, j'ai l'impression, dont les chaises, dont cette eau, dont la paroi du dispositif, qui ont vraiment un potentiel suggestif, oui, sémantique, très fort. Et notamment, cette paroi de verre, la transparence du dispositif, moi, c'est quelque chose que j'ai reçu assez fortement, parce que déjà, on voit les acteurs à vue qui attendent, qui interviennent, soit comme costumier, soit pour introduire des petites musiques, soit pour accompagner la scène. J'avais l'impression qu'il y avait déjà quelque chose là qui parlait du théâtre, puisqu'il aussi s'agit de théâtre dans la pièce régulièrement. Donc c'est quelque chose qui parlait du théâtre en même temps qui nous suggérait aussi qu'il y avait vraiment des choses derrière les apparences, qu'il y avait vraiment des gens derrière le silence, et que c'est, la pièce parlait aussi de ça, en fait.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a aussi cette phrase qui revient régulièrement dans la pièce, qui est pour moi la phrase qui décrit le mieux mon amour pour le théâtre, qui me touche à chaque fois, quand, surtout vers la fin, cette phrase qui est « Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux ». Or, entendre cette phrase, moi je m'assois toujours un peu sur le côté là, et il y a un moment où elle est dite, il y a un moment assez tragique où elle est dite, où, en tout cas pour l'instant, jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'elle a été dite, il y avait un silence, un grand silence dans la salle. Et tous les acteurs sont sur scène en même temps. Et là, tout à coup, cette phrase prend pour moi un sens du théâtre. Ah. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, c'est qui ce nous? Ben, oui, c'est les personnages, mais c'est aussi les acteurs, mais aussi c'est les spectateurs qui sont assis côte à côte. Et cette salle qui est pleine, tout à coup, donne un sentiment pour moi d'une émotion, en fait, de quelque chose qui me permet de passer au-delà, d'aller plus loin que l'émotion, qui est la contemplation. Je tombe dans la contemplation pendant ce court moment. Et ce mur de vitre, justement, traduit ça. C'est-à-dire qu'au-delà des apparences, on est ensemble. Il y a quelqu'un derrière. On ne le voit pas. La pièce est continuellement sur le point aveugle, continuellement sur... La réponse est là, mais on ne la regarde pas. Le salut vient toujours du côté où on l'attend le moins. On est toujours là à regarder l'horizon, et puis bon, ben, il est juste là. Et il y avait aussi ce... Il y a un moment aussi que qui me plaît bien, c'est quand des personnages secondaires sont assis dos public, presque collés au mur de vitre. Et donc, ils sont assis de dos, mais on les voit, on voit leur reflet sur la vitre. Mmh. Et leur reflet a la même qualité que les comédiens qui sont assis derrière la vitre. Et on ne sait pas, mmh. On ne sait plus ce qu'on voit.
Mmh. Ouais, c'était la qualité de ce verre, justement, sale, enfin, qui avait des pouvoirs de transparence, d'opacité, de réflexion. Ouais, tout à fait. Alors, je voudrais évoquer aussi un peu, avec cette écriture, le rapport à la parole, parce que j'ai l'impression que dans Incendie, puis les personnages le disent à un moment, l'écriture comme la parole est un acte de résistance par la connaissance. Et il me semble que votre écriture en général est un acte de résistance, et que là aussi, ce qui pointait vraiment très fortement, c'est que c'était un acte de résistance, peut-être même aussi résister par rapport à cette conception de la fable aujourd'hui, quoi, mais aussi un instrument de reconstruction, l'écriture.
Oui. Il y a plusieurs choses. Pour moi, à la base, ce que la grand-mère dit à Nawal à un moment donné, elle lui dit, c'est pas compliqué, tu veux changer, apprends à lire, apprends à parler, apprends à compter, apprends à lire. À lire, à écrire, à parler, à compter. Quand tu sauras faire ça, tu sauras penser. Et si tu sais penser, tu pourras te débrouiller un peu plus. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux mal virer. Et ça peut être douloureux. Mais c'est ta seule chance. Bon, alors à la base, il y a ça, qui est très concret, la première, directement. Au-delà de ça, il y a pour moi, dans l'acte de la parole, le geste le plus abstrait qui existe. C'est-à-dire, autant très éloigné, très 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 ancien, où nous ne parlions pas, où nous marchions même à quatre pattes, un jour il s'est passé une chose étrange, qui a été la chose suivante. Un homme ou une femme, enfin quelqu'un, s'est dressé, s'est libéré les mains. Puis bon, les autres l'ont imité peut-être, ou ils se sont relevés en même temps. Bref, à un moment donné, la tribu, appelons-la comme ça, s'est libérée les mains. Se libérant les mains, ben, ils ont pu utiliser leurs mains pour faire des choses pratiques. Prendre un os, frapper un autre os, bon, bref. Et puis un soir, fatigués, ils étaient dans leur grotte. Ils étaient assis. Et il y en a un qui a fait ça. Et pour moi, c'est le début de la révolution. Il a fait ça. Il était assis, il a fait ça. Il y en a un qui a regardé ce mouvement-là et il a fait peut-être ça. Puis il y en a un autre qui a fait ça. Et tous ces gestes, d'ailleurs, vous voyez bien, dès qu'on veut prendre un auteur en photo, hein, on le voit toujours comme ça, ou comme ça. Il y a toujours la main à côté du visage quelque part. Hein. Ça veut dire quoi? Ça voulait dire que tout à coup, les mains devenaient le théâtre de la pensée. Pour moi, les mains sont la première scène. Et les personnages sont la pensée. Ils savaient, ils ont compris. À un moment donné, quand on faisait ça, ou quand on fait ça, ou quand on fait ça, on dit des choses. Et ils ont réalisé à un moment donné que cela ne suffisait pas, parce qu'ils ont découvert le plaisir de communiquer. Communiquer n'est pas le bon terme, de faire connaître, c'est ça. De faire connaître à l'autre, de manière plus détaillée. De manière plus détaillée. En faisant ça, je fais comprendre, je fais connaître à l'autre quelque chose de plus détaillé que si je ne fais rien. Et ils ont voulu aller plus loin encore. Alors, ils se sont rendus compte que peut-être avec le son, en articulant leur cri, en articulant le hurlement, qui était le nôtre initialement, le « Ah !» Eh bien, ils pouvaient dire « Je t'aime », ils pouvaient dire « Écoute-moi, il faut que je t'explique ». Ils ont pu dire « et là le miracle de la parole, qui, si on y pense deux secondes, c'est absolument miraculeux que vous puissiez comprendre ce que je dis, quoi. Parce que uniquement avec des sons particuliers, je vous fais pénétrer dans un univers qui est le mien, où nous plongeons tous les deux dans l'eau noire de ma conscience pour essayer d'attraper les poissons qui sont enfouis au fond de ma pensée et qu'on appelle le sens, qu'on appelle la raison. Alors, faire du théâtre, pour moi, quand je raconte une histoire et que je mets en scène un personnage qui apprend à lire et à écrire ne peut être que ça, ne peut être qu'un acte de... C'est Antigone qui dit « il faut enterrer le frère, il faut enterrer les deux ». C'est la même chose. Parler, c'est la même chose.
Justement, j'ai l'impression que la parole vient aussi, et il y a un apprentissage de la parole. C'est pour ça que moi je parlais en partie d'une pièce de formation ou d'un texte de formation. Mais dans ce sens particulier que la plupart des protagonistes de la pièce sont vraiment saisis à un moment de confrontation et de reconsidération de leur histoire personnelle ou de leur parcours personnel. Jeanne va dire « le graphe de visibilité que je me suis construit est donc faux ». Et à partir de là, tout s'écroule et à partir de là, il y a nécessité d'aller voir, d'aller se reconstruire. Donc il me semble que la parole fonctionne, relève de cette nécessité-là, oui, de reconsidérer son identité.
Tout à fait, enfin, de nommer, ouais, de nommer la chose. Et parce qu'elle est nommée, à ce moment-là, il n'y a plus d'autre choix. Parce qu'à partir du moment où vous nommez le manque, vous n'avez pas d'autre choix que de changer. C'est ce que je voulais dire au début. Ils se retrouvent dans une situation où la vie les met dans une situation où ils sont obligés d'agir. Mais je crois aussi qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai compris avant-hier en voyant le spectacle, que je n'avais pas du tout vu venir, c'est la réflexion autour de monsieur tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Personnellement, je me sens totalement à l'écart de monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, c'est qui exactement? Pourquoi il y a des situations, par exemple avec ma famille, on me retrouve à Noël, et j'ai envie de mourir parce que je me sens tombé dans l'ennui, mais dans l'inexistence, dans le néant. Et je me dis, là, il y a un truc qui ne marche pas, là, c'est... Je crois que monsieur tout le monde... Enfin, ouais. Bon, personnellement, je n'ai absolument pas la certitude que je ne tuerai pas quelqu'un. Je ne peux pas présumer de ça. Je ne peux pas dire, moi, je ne tuerai jamais personne. Je ne peux pas. Ce serait faux. Je ne peux pas. Ouais, je n'ai pas cette certitude-là. Et j'ai réalisé qu'il y a des gens que je connais très très bien, parce qu'ils sont dans ma famille, etc., qui ont cette certitude. qui ont la certitude qu'ils ne tueront jamais personne. Ou alors si ça arrive, ça arrivera par accident. Oui, ils sont là. Or, la tragédie ne met en scène que des personnages qui n'ont pas cette certitude. Qui n'ont pas la certitude. Nawal va tuer quelqu'un, Saouda va se tuer, bref, Jeanne pourrait très bien tuer quelqu'un, Simon, pareil. Bon. Le seul qui a la certitude qu'il ne tuerait pas quelqu'un, c'est le notaire, Hermine Lebel. Ouais. Et là, je me suis dit, ah, au fond, ce que j'aime dans Incendie, et qu'il n'y avait pas dans Littoral, c'est un peu comme si j'avais mis le banlieusard qui coûte une partie de foot le soir et qui est dans cette norme-là et qui n'est pas dans la création ni dans ce questionnement-là et qui est dans un autre qui est dans le drame, qui n'est pas dans la tragédie, c'est ça, qui peut être dans le drame, dans les difficultés de la vie, etc. Et qui est dans le drame, mais toujours avec la certitude que jamais il ne posera l'irréparable. Eh bien, j'ai l'impression d'avoir pris ce personnage-là et de l'avoir mis dans Sophocle. Et que ça tient, lui avoir trouvé son rôle un peu. Peut-être celui du coryphée, je ne sais pas. Et là, il y a... En tout cas, vous voyez, c'est ce que je veux dire, ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais je me préoccupe très peu de ce que je veux dire, je me préoccupe de ce que je veux raconter. Parce que maintenant que l'histoire est racontée et que je la regarde, le sens commence à se dégager. Je commence à lire un peu ce que ça signifie, tout ça. Et là, je réalise qu'il y a un truc qui m'intéressait déjà dans Rêve. Quand j'avais créé Rêve, je m'étais beaucoup interrogé sur cette question. Enfin, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Quel lien il existe entre l'artiste et, mettons, le type qui conduit le métro, dans lequel il va monter l'artiste pour aller à son local de travail. Ils vivent dans la même ville. Il y en a un qui utilise les services de l'autre. Or, est-ce qu'il y a quelque chose qui les rapproche ? Dans Rêve, j'avais travaillé là-dessus, entre un auteur qui rentre dans une chambre d'hôtel et puis l'hôtelière. Et j'ai voulu montrer qu'ils avaient énormément de liens. Et là, dans Incendie, la présence du notaire, au-delà du fait que c'était un notaire, et ça c'est très important que ce soit un notaire, parce que c'est lui qui...
La lecture légataire, ouais, testamentaire.
Et puis symboliquement, c'est celui qui peut témoigner que ce qui s'est passé est vrai.
C'est vrai.
Au-delà du fait que ce soit un notaire, le fait que ce soit ce genre de personnage, dans cette certitude de la vie, me permet de comprendre que je me suis peut-être approché de quelque chose que je cherchais à faire, qui était de rapprocher, de faire entrer en collision frontale la tragédie et le social, je ne sais pas comment dire, oui, c'est ça, et le quotidien, la tragédie et le quotidien.
D'autant plus que ce personnage-là n'est pas complètement univoque et que ça n'est, il n'est pas simplement un monsieur tout le monde.
Non, c'est ça.
Puisque c'est aussi celui qui va quand même avoir la rectitude et l'impulsion, oui, qui va permettre aux uns et aux autres, et surtout aux deux jeunes, de partir et de réaliser les choses. Il est, d'un coup, il est un peu plus courageux ou plus entreprenant peut-être qu'un monsieur tout le monde. Justement.
Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il fait du théâtre, je sais pas, qu'il est au théâtre.
Alors, par rapport à ça, justement, on arrive un peu sur cette notion-là de parole. On voit bien que votre théâtre, il y a une grande foi dans l'écriture, dans le théâtre, mais aussi donc dans la parole qui réunit en fait l'écriture et le théâtre. Et là, ce que je voyais moi dans Incendie, c'est que c'était à la fois un théâtre de la parole et en même temps un théâtre du silence, puisqu'on parle surtout pour ne pas dire dans la pièce un long moment, ou alors carrément on se mure dans le silence pour encore moins dire. Et donc il me semble que à chaque fois, quand il y a parole, elle est piégée et qu'il y a vraiment un rapport très fort au silence, au secret, du coup, dans Incendie.
Oui, dans Incendie, la parole est le train. Et le train, c'est le moyen de locomotion, mais n'est pas le but. Ça, c'est nouveau pour moi. C'est pour ça, peut-être, que c'est la pièce la moins colérique, mais la plus impitoyable, peut-être, par rapport à ce que j'ai fait, moi. La parole, c'est le train. À la fin, les jumeaux se taisent. Et c'est la mère qui parle. Ils arrivent à destination. La destination est peut-être ce silence, c'est peut-être cette contemplation dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être ce qui est à viser. En tout cas pour moi, ce que je vise. C'est drôle que vous disiez ça, parce que le mot que j'ai écrit dans le programme pour la création Améla tournait un peu autour de ça, où je disais que au fond j'ai vraiment envie de me taire, voilà, j'ai vraiment envie de me fermer la gueule après un sentiche, et que j'ai édité un roman au début de la saison de l'année qui commence par un garçon qui ne parle pas, qui ne parle pas, un enfant de 4 ans qui ne parle pas, et tout le monde s'inquiète évidemment, mais lui il ne parle pas parce que le silence est une grâce, surtout dans l'enfance c'est une grâce, c'est-à-dire c'est un contentement, tout va bien, on n'a pas besoin de parler, tout est compris.
Mais là, à la fin de la pièce, c'est manifeste, ce silence.
Ce silence-là, voilà. Mais ça, c'est une question très importante, parce que cet événement-là, moi, c'est très autobiographique, ce silence-là de l'enfance. Je me suis mis à parler très tard. J'ai commencé à parler vers 5 ans, et ça inquiétait un peu mes parents, tout ça. Mais aujourd'hui, je me suis posé cette question pendant l'écriture d'Incendie, et ça a été ça le mot dans le programme que j'ai écrit, c'est cette question que je posais. Qu'est-ce que j'ai donc cessé de comprendre pour m'être mis à parler ? Parler beaucoup, hein, je veux dire, c'est littoral 5 heures, littoral incendie 3 heures, c'est beaucoup de mots, un roman, 8 pièces en 10 ans, je veux dire, il y a beaucoup de mots qui sont sortis. Et je me suis dit, ben, peut-être c'est ça, la parole va être un train, ce n'est pas une finitude comme je pensais que c'était.
Oui, moi je pense que ça répond pas mal à cette question que j'avais sur on y a répondu tout au long, je pense, sur cette raison de la densité un peu de la présence des acteurs. Il y avait effectivement ce rapport à l'investissement dans la femme, mais aussi dans ce rapport au silence qui est recherché, d'où l'évidence que à la fin on peut vraiment dire qu'on est bien maintenant qu'on est réunis et qu'il y a un apaisement. Peut-être j'aurais aussi aimé pouvoir évoquer peut-être la partition un peu musicale du spectacle, qui est quand même relativement présente tout le long, qui est aussi présente, qui m'a paru très importante, notamment dans cette réflexion sur le silence ou sur la parole non dite sous forme de chant, qui traverse et les vides, qui traverse les prisons, qui traverse tout ça. Donc ce chant et aussi le fait que les acteurs eux-mêmes deviennent, je pense à Éric Bernier, et puis de l'autre côté, avec leur petit piano xylo, qui avait aussi à intervenir là sur ce qui se passait sur le plateau.
Oui. Tout d'abord, lorsque j'ai travaillé avec le musicien, avec Michel F. Côté, on s'était dit, au point de départ, on s'était dit, bien, on fera toute la musique du spectacle devra être faite par les comédiens avec des instruments qui ne les gêneront pas. Pas de batterie, pas de trucs qui... infernaux. Alors, on s'est dit... Et là, Michel me dit, tu sais, quand il a commencé à comprendre un peu autour de quoi ça tournait, il s'est dit, tu sais, il faut faire ça avec des petits instruments. L'enfance. Petit piano, Charlie Brown... harmonica, petit accordéon chinois qui coûte pas cher, l'enfance. Alors on a acheté les pianos, on a acheté les harmonicas, on a acheté des accordéons, tout ça. On s'est mis à travailler avec ça au début. Ensuite, Marie-Claude Langlois, qui joue dans le spectacle, qui était dans ma classe à l'École nationale, dont je la connais depuis très bien, depuis très longtemps, je la connais bien, je savais qu'elle chantait. Alors j'ai dit, bah, tu vas chanter. Alors quand j'avais besoin de quelque chose, j'ai dit, tiens, essaye ça. Elle a fait avec Michel toute une série de recherches au niveau de certains, autour des berceuses. Les berceuses à travers... Michel, ce qui est bien aussi comme musicien, c'est qu'il a une formation d'anthropologue. Alors, d'un point de vue vraiment d'anthropologue, il a été chercher les berceuses. Parce que toutes les sociétés ont des berceuses. Des plus tribales aux plus modernes. Alors il a fait une recherche sur les berceuses. Ils ont donné à Marie-Claude, ils ont travaillé là-dessus pour dégager finalement la berceuse la moins folklorique. Parce que ce que j'avais dit à Michel, j'avais dit, pas de folklore. Il faut qu'on reste dans une espèce de suspension du temps. Ça, c'est arrivé. Et puis quand on a fini la mise en place, et puis qu'on avançait dans la mise en place, l'idée de la femme qui chante, qui est très importante dans le spectacle, m'amenait à faire des parallèles avec un autre personnage qui allait se mettre à chanter, mais dans un autre contexte complètement différent. Donc, des personnages qui chantent devenaient presque ontologique au spectacle. Il devenait nécessaire à la trame narrative et inconsciente du spectacle. Il y a deux personnages qui chantent, ils sont très importants dans cette pièce, mais ils chantent pour des raisons totalement différentes. Donc, déterminer ce que l'un chante, ce que l'autre chante. Et une fois que tout ça a été fait, Michel a vu les trous, tous les trous, et qui sont devenus la bande-son, sur laquelle il a tout simplement complété ce qui pouvait manquer. Et il y avait un autre élément qui était très important, qui était les bruits. Il y a donc la musique, mais il y a les bruits. Les premiers bruits, par exemple, c'est le silence. Jeanne passe son temps à écouter le silence de sa mère qui a été enregistré par l'infirmier. Alors, il fallait qu'on fasse entendre ce silence. Faire entendre le silence, ça c'était génial à faire. On s'est tellement amusé à faire ça. Et ensuite, faire les bruits. Les marteaux-pilons, les travaux, les autobus, faire les bruits. Donc, il y avait plusieurs couches au niveau de la bande-son, de la musique générale du spectacle, qui a eu à être gérée par Michel au niveau des assignations. Qu'est-ce qu'on fait entendre quoi, où, à quel moment, à quel niveau, dans un ensemble bien précis, les micros, les... Et ça a été un travail de dentelle, je dirais.
Ok. Eh bien, très bien. Je vous remercie.
Merci à vous.